Samedi soir prochain, à la tombée de la nuit, commencera la fête de Shavuot. C'est la seconde des trois fêtes de pèlerinage, fête du don de la Torah au Mont Sinaï, fête de la révélation de la loi. À cette occasion, se tient dans l'ensemble des communautés une nuit d'études, à l'issue de laquelle commence la prière du matin, pendant laquelle est lu le passage biblique des 10 commandements. Il est intéressant de se demander pourquoi cette révélation nécessite ces deux moments, études et lecture de la loi. L'écoute du texte n'est-elle pas suffisante? Et pourquoi l'étude précède-t-elle la lecture du texte lui-même? Ne serait-ce pas qu'entendre nécessite une préparation particulière et, comme dit le Talmud, on ne peut pas toucher le texte à main nue. L'oreille doit être préparée à l'écoute et l'intelligence à la critique, car entendre la loi n'est pas l'accepter, mais la commenter. Commentaire qui est orienté par une éthique énoncée dans les versets qui suivent immédiatement les 10 commandements. « Tu feras pour moi un autel de terre. Si toutefois tu construis un autel de pierre, tu ne les construiras pas en pierre de taille, car en les touchant avec ton épée, tu les auras profanés. » Ainsi, il faut comprendre que dans la relation à Dieu, dans notre relation au texte, on peut tout dire, mais rien qui soit le prétexte de la moindre violence, car en les touchant avec ton épée, tu les auras profanés. Recommandation essentielle s'il en est, car à notre grande surprise, la lecture du texte biblique et d'autres textes de la tradition juive nous confrontent parfois à des textes où cette éthique de la non-violence semble totalement absente. Commenter, et j'ajouterai le devoir de commentaire, serait, en son sens le plus profond, l'effort permanent de donner vie à cette éthique, que je nommerai méta-éthique, éthique par excellence, comme si l'herméneutique et toutes ses subtilités avaient pour enjeu de déjouer les risques de la violence des textes et l'idéologie violente à laquelle ils pourraient sembler nous inviter. Pour discuter de ce problème, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui le rabbin Rivon Krigier, qui a particulièrement travaillé ces questions et en a approfondi l'étude récemment à l'occasion de la réalisation par Gérard Garoust d'un rouleau d'Esther enluminé et qui a donné lieu à l'apparition d'un livre que nous avons eu le plaisir de présenter ici il y a quelques mois. Rivon Krigier, bonjour.
Bonjour.
Je viens de citer le livre d'Esther, car c'est précisément l'un des textes qui nous met en face de cette question de la violence que j'ai évoquée.
Ben oui, la fête de Pourim, dans laquelle on lit le rouleau d'Esther, comme on le sait, est une fête extrêmement joyeuse, on se déguise, on s'amuse. Et pourtant, quand on lit bien le contenu, on voit que si nous avons de raisons de nous réjouir, puisqu'on raconte comment le peuple d'Israël a échappé au carnage, on voit ensuite la reine Esther et Mardoché, les héros de cette saga, prendre des mesures extrêmement dures et requièrent du roi de mener des représailles sanglantes, si bien que, selon ce que dit notre rouleau, 75 600 personnes à travers le vaste empire périssent par ces représailles. Et quand il s'agit de parler de la ville de Suse, qui est la capitale de l'empire perse à cette époque, le roi demande à la reine Esther si elle est satisfaite de ce carnage. Elle dit bah oui, sauf qu'elle aimerait bien avoir un jour de plus pour régler le compte à d'autres personnes, et il y a encore 300 personnes qui périssent au lendemain. Alors, quand on lit ce texte, on est un petit peu mal à l'aise, parce que nos sentiments sont mitigés. Il est bon de savoir qu'on a échappé au pire, il est bon aussi de savoir que nos ennemis sont défaits, mais cette attention au massacre pose la question de la violence dans nos textes. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait de cette charge? Et comment est-il possible de poser un garde-fou à cette violence?
Oui, c'est-à-dire que nous sommes là devant un des textes de la tradition juive, de la tradition biblique, qui devant lequel on est extrêmement, vous dites un petit peu mal à l'aise, c'est une forme d'ironie, c'est-à-dire qu'en fait on est très 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 mal à l'aise, parce que comment comme je l'ai dit dans mon introduction, la Torah qui se présente avec cette éthique fondamentale de la non-violence, sans angélisme bien sûr, comment on peut avoir des textes qui nous invitent à la violence, et c'est pas le seul, il y a d'autres textes dans la Torah. Et le travail justement de l'interprète, le travail des rabbins, le travail des talmudistes, c'est de réussir par le commentaire à mettre en échec ces textes de violence. Je pensais à cette idée très très subtile d'un commentaire qui dit que le mot chacham, qui veut dire le sage, a la même valeur numérique que le mot chayim, qui veut dire la vie. Comme si la sagesse, la chorma, c'était la capacité de toujours trouver les arguments pour nous réinscrire dans le vivant, même lorsque les textes, de manière extrêmement claire, sont là pour nous inviter à autre chose, en particulier la violence et la mort. Rabbin Krigier.
Oui, je ne peux que souscrire. Et donc la question qui se pose concernant ce rouleau, c'est quand on est face à la cruauté, c'est la grande question, c'est le grand dilemme. Est-ce qu'elle peut être combattue autrement que par la même cruauté? Voilà la grande question qui se pose à nous tous. Et évidemment, de la même façon, qu'est-ce que notre tradition qui est censée porter l'idée de paix au plus haut peut en dire, et que fait-on des textes qui semblent justement donner droit à ce déferlement de la violence. Mais quand on scrute un petit peu plus le texte, ce qu'il faut toujours faire, ne jamais se laisser happer par les premières impressions, on se rend compte que le portrait ou la situation est beaucoup plus nuancée que cela. Tout d'abord, une chose très importante qui mérite d'être notée, c'est que l'ennemi en question, c'est Aman, qui est le vizir du roi, et la généalogie qui nous est donnée dans le texte d'Esther indique qu'il est de la descendance de Amalek. Mardoché, le chef de la communauté juive, lui-même, le texte nous dit que il est descendant du roi Saül, qui était un des premiers rois d'Israël. Et ces indications sont très significatives puisqu'elles nous montrent que ce texte fait plein d'allusions et nous renvoie à l'intertextualité, nous renvoie au texte précédent et nous indique que le combat qui est en train de se produire est une sorte de remake ou plutôt de retour, de second épisode d'un duel qui existait déjà des siècles plus tôt entre ces deux entités, l'entité du peuple d'Amalek et l'entité d'Israël, dont on sait qu'elles sont profondément antithétiques. Le peuple d'Amalek, nous dit le livre de la Torah, est le premier peuple qui, gratuitement, s'est attaqué au peuple d'Israël sortant de l'Égypte. Et il y a une espèce d'antagonisme profond qui est décrit. Malheureusement, cet antagonisme se transmet à travers les générations, et quand les entités se rencontrent, elles sont dans l'opposition violente. Et évidemment, si Mardoché et Esther demandent à agir de manière vigoureuse face à Amalek, c'est parce que le projet du Haman en question était de décimer l'ensemble du peuple juif, hommes, femmes, enfants, vieillards, dit le texte, dans l'ensemble de l'Empire. C'est une véritable Shoah qui était programmée. Et la question se pose, qu'est-ce qu'on fait face à ce type de menace? Alors, une fois que le projet a été déjoué, dénoncé devant le roi, on aurait pu dire, bon, maintenant, les choses vont rentrer dans l'ordre. Mais Esther et Mardoché ne peuvent pas s'en satisfaire.
Oui, mais c'est très, très gênant. On n'a pas résolu le problème parce que là, défaire ou mettre à mort lui-même, c'est-à-dire Haman et son entourage, on peut le comprendre, mais mettre à mort des milliers de personnes qui sans doute sont innocentes par rapport à cela pose un réel problème. Je pense que votre argument, je l'entends, mais il me satisfait pas pour deux raisons. Premièrement, Le fait que c'est un remake de d'un conflit très très ancien entre Amalek et Israël, il faut pas essentialiser la notion d'ennemi. Comme dit le prophète Ézéchiel dans le chapitre 18, les enfants ne doivent pas mourir pour les parents. Donc il y a quelque chose ici de gênant dans cette continuation à considérer cet ennemi Amalek comme un ennemi que l'on a essentialisé comme étant le mal.
Alors je partage tout à fait votre sentiment et votre malaise.
Et c'est pas un malaise, c'est une révolte contre le texte.
Mais bien sûr, bien sûr. Ce qu'on peut en dire, c'est que, qu'on le veuille ou non, et c'est là qu'il ne faut pas tomber dans l'angélisme, il y a, dans l'enseignement qui passe parfois dans certaines civilisations, des conceptions très hargneuses, têtues, qui se révèlent indépendamment de la conscience de tel ou tel individu. Et cette mémoire encombrante pose problème. Et dans le texte de la Megillah, il faut quand même se rendre compte de la situation. Esther et Mardochée ne prennent pas l'initiative de combattre de manière violente Amalek, mais quand Aman, le représentant d'Amalek, arrive au pouvoir, il est agacé par le comportement de Mardochée, et assez rapidement, il prend la mesure, il parvient à convaincre le roi d'exterminer l'ensemble du peuple. Donc, le problème, c'est que la violence s'invite à notre corps défendant. On a beau se dire, bon, dépassons l'essentialisation, que fait-on quand tout d'un coup, un homme arrive au pouvoir et, on a vu ça il n'y a pas si longtemps, prend pour projet de détruire l'ensemble du peuple d'Israël. Et la question théologique, philosophique qui se pose, c'est est-ce que nous devons, parce qu'il y a cet ennemi juré, tomber dans cette essentialisation et de dire, ben voilà, c'est l'éternel Amalek. Et la seule chose qu'il y a à faire, c'est détruire l'ensemble du peuple ennemi comme il a voulu nous détruire. Est-ce que c'est ça la bonne réponse? Et bien moi, je voudrais montrer que quand on regarde bien le texte d'Esther, ce n'est pas ce qui est indiqué, alors que c'est pourtant l'impression qu'on a eue à première lecture.
Alors qu'est-ce qui est indiqué?
Ce qui est indiqué d'abord, c'est toujours de faire une deuxième lecture. Et même une troisième, et d'autant plus parce qu'on s'aperçoit de choses tout à fait étonnantes. Et d'abord, un détail simple, mais qui a échappé à beaucoup de commentateurs, c'est que lorsque Mardochée et Esther ont convaincu le roi Assuérus que Aman voulait détruire le peuple d'Israël, ils demandent au roi de révoquer le décret d'extermination. Et alors le roi fait cette réponse sidérante, qui est celle de ce système très policé de l'Empire perse, de dire « Malheureusement, je ne peux rien faire. » Parce que un décret muni du sceau royal ne peut pas être révoqué. Et donc, la date prévue donnant autorisation aux milices d'aller exterminer les Juifs ne peut pas être annulée. Et face à cette situation, Mardochée a la bonne idée de dire « Dans ce cas, est-il possible de faire un autre décret qui permettra aux Juifs, le jour J, de se préparer de manière armée et de lutter contre l'ennemi ? Si bien que, au fond, quand cet ordre, ce second décret est donné, on est clairement dans une situation de légitime défense. Parce que, si on imagine un instant, si le peuple juif n'avait pas eu cette autorisation, le premier décret était toujours valide, et il y avait toujours extermination. Mais il y a plus encore par rapport à la question qui nous préoccupe. C'est que on aurait pu s'attendre, puisqu'il s'agit de Amalek, puisque le livre de l'Exode dit « tu effaceras le souvenir d'Amalek », que Mardochée, Esther, prennent la résolution d'exterminer systématiquement hommes, femmes et enfants comme on aurait pu l'interpréter selon les sources. Or, ce qui est tout à fait frappant, c'est qu'à chaque fois que ces représailles sont indiquées, il est dit que les victimes sont « ish », c'est-à-dire des individus, c'est probablement des soldats, des hommes. Il n'est jamais question nulle part d'assassiner ou de tuer femmes, enfants et vieillards, alors que le décret royal pouvait sembler donner droit à cette action. Ce qui voudrait dire, et ça c'est tout à fait capital, que les représailles n'ont pas été menées dans cette essentialisation, dans cette généralisation qui consiste à dire l'ennemi, parce qu'il est ennemi, y compris alors qu'il a voulu nous détruire, doit être qualifié, entrer dans la catégorie d'Amalek, contre laquelle il faut un combat sans quartier. Ce n'est pas l'interprétation de ce rouleau d'Esther. Ces personnages se cantonnent à la légitime défense, et ça, c'est une innovation tout à fait intéressante du texte.
Alors nous avons entendu Rabbin Rivon Krigier, l'oratorio de Handel intitulé Saül, premier roi d'Israël, que vous avez évoqué, va perdre la royauté précisément à cause d'Amalek et du commandement dont nous venons de parler. Mais j'aimerais que vous rappeliez, si vous le voulez bien, cet épisode et que nous essayions de comprendre le sens de la faute de Saül et le sens de cette loi aujourd'hui, Rabbin Krigier.
Bon, d'abord, nous avons deux passages dans la Torah, en Exode 17 et en Deutéronome 25, qui montrent cette fameuse attaque première d'Amalek contre Israël et pour laquelle... il est dit clairement qu'il y aura, de ce fait, une injonction de combattre Amalek. Et le verset d'Exode dit « Midor d'or » de génération en génération. Donc on comprend à cet endroit qu'on n'en a pas fini avec cet épisode. Dans le Deutéronome vient la fameuse injonction « Zachor et Asher Asa Lecha » Amalek, souviens-toi toujours de ce qu'a fait Amalek. Et puis un peu plus loin, Timchet Zecher Amalek, tu devras effacer Amalek, Mitachat Hashamayim, son nom de dessous les cieux, Lo Tishkar, et tu n'oublieras pas. Et la question, évidemment, c'est de savoir qu'est-ce que ça veut dire effacer la mémoire d'Amalek. Dans un autre passage du livre de Samuel, ce passage est lu de manière la plus radicale et la plus sanglante qui soit, puisque le prophète Samuel donne ordre au roi Saül de faire une guerre d'anathème contre Amalek. Et dans ce terrible passage du livre de Samuel, au chapitre 15, il est dit « Tu ne prendras pas pitié et tu extermineras toute la population, hommes, femmes et enfants. » Bien sûr, on comprend que cet ordre du prophète n'est pas simplement un déferlement de violence gratuite. Il s'agit d'éliminer un ennemi. Mais quand même, cette interprétation sous le terme de l'anathème, c'est-à-dire de l'éradication radicale, est bien sûr incompatible avec notre normativité d'aujourd'hui. Elle est
non seulement d'aujourd'hui, mais avec l'éthique même de la Torah, qui est l'éthique de la non-violence, comme je l'ai signalé tout à l'heure. C'est-à-dire, si on comprend très bien, par l'analyse que vous avez proposée dans notre première partie, que l'innovation du livre d'Esther, c'est le droit à la légitime défense, on ne peut pas comprendre et on ne peut pas accepter cette demande de la part d'un prophète à un roi d'exterminer entièrement un peuple, hommes, femmes, enfants, vieillards, au nom de quelque chose qui se serait passé, parce que là, Amalek n'attaque pas, c'est au nom de quelque chose qui s'est passé des siècles avant, lorsque Amalek, lors de la sortie d'Égypte, a attaqué Israël. Alors qu'est-ce que fait Saül à ce moment-là? Est-ce qu'il suit la demande du prophète Samuel?
Eh bien non, et on aurait pu dire, bah voilà, voilà quelqu'un qui réagit de manière humaniste et qui dit qu'il refuse un ordre aussi radical. Mais en fait, le texte ne dit pas tant que il épargne femmes et enfants. En fait, il épargne surtout le bétail, les biens, et il n'exécute pas le roi. On ne sait pas trop pourquoi, mais semble-t-il que il était mal à l'aise avec cette situation. Et le prophète lui reproche vertement. Hein. Il lui dit qu'il n'a pas fait le commandement jusqu'au bout. Mais le Midrash lui-même, dans la tradition, est sensible à cette situation et donc et met dans la bouche du roi Saül la phrase « Oui, d'accord, mais si les hommes ont péché, en quoi les femmes ont péché? Si les femmes ont péché, en quoi les enfants ont péché? Si les enfants ont péché, en quoi les animaux ont péché ?» Donc le Midrash laisse entendre toute l'argumentation éthique qu'il y a derrière.
Oui,
et on lui répond par un verset des Proverbes « Ne sois pas juste à l'excès ». Ne sois pas juste à l'excès, mais ce proverbe, qu'est-ce qu'il indique en creux? C'est que si on s'en tenait à l'ordre au sens strict, il n'y avait pas lieu de tuer hommes, femmes et enfants. Quand on nous dit ne sois pas juste à l'excès, ça veut dire tu peux parfois aller beaucoup plus loin que ce qui est exigé. Donc il semblerait que la Torah elle-même est en réalité beaucoup plus vague. Elle ne demande à aucun moment une extermination de manière explicite, globale de Amalek. Même si plus tard, au Moyen-Âge, certains vont le comprendre de cette façon-là.
Mais moi, j'ai l'impression que la faute, en tout cas, c'est une question que je vous pose, la faute n'est-elle pas de ne pas s'être révolté contre Dieu? Parce qu'il faut bien expliquer que Saül, le roi Saül, premier roi d'Israël, va perdre sa royauté parce que il a fauté, c'est-à-dire parce qu'il n'a pas exterminé Amalek. Et il me semble que c'est pas une possibilité, mais c'est un devoir d'interpréter la faute de Saül, non pas parce qu'il n'a pas exterminé Amalek, mais parce qu'il ne s'est pas révolté contre Dieu, comme Abraham en a été capable dans l'épisode de Sodome et Gomorre, ou comme Moïse, dans un épisode rapporté dans le Deutéronome, et que le Midrash commente, et que vous connaissez bien, c'est-à-dire que ne peut-on pas parler d'une théologie de la transgression, articulée avec une théologie du courage, qui font de l'homme, comme l'a bien montré André Néer et à sa suite le rabbin David Meyer, que l'homme un partenaire de Dieu et non son esclave. Dire non à ce commandement dans sa forme violente et en trouver un sens qui préserve la métaéthique de la non-violence énoncée au début de notre conversation, est-ce qu'il ne fallait pas remettre ainsi en question le texte même ou l'ordre même du prophète? Est-ce que ce texte n'est pas un texte comme un électrochoc, si vous voulez, qui vient nous dire, attention, il y a des personnes qui peuvent se présenter comme des prophètes ou comme des hommes de justice ou des rabbins qui vous disent, vous devez faire le mal et nous devons, c'est ça le sens de notre interprétation, nous avons l'obligation de nous révolter contre toute parole qui nous enjoindrait à faire la moindre violence. Rabbin Krigier.
En tout cas, ce qu'on peut dire de manière très claire, c'est qu'il existe tout un pan de la tradition qui va exactement dans le sens que vous énoncez. Je pense à un passage du Deutéronome au chapitre 2 où Dieu s'adresse à Moïse et dit qu'il va livrer au pouvoir d'Israël le Sihon, le roi amoréen, et il lui dit « Commence par l'attaquer, fais la conquête avec lui, je veux que tu inspires crainte et épouvante à tous les peuples qui vont pouvoir s'opposer à l'entrée d'Israël en terre d'Israël. » Et dans un passage du Midrash Rabba, le nombre Rabba, il est enseigné cette chose incroyable, inouïe, que trois paroles ont été adressées par Moïse à Dieu pour lesquelles Dieu lui a répondu « Tu m'as enseigné quelque chose. » C'est-à-dire où Dieu a pris une leçon de Moïse. Et dans les cas qui sont présentés, la troisième figure, c'est lorsque le Saint béni soit-il a ordonné de porter la guerre contre Sihon. Même si lui ne cherche pas à te combattre, commence par lui, par la conquête, lutte avec lui, a-t-il été dit. Mais Moïse n'a pas procédé ainsi, comme cela est écrit, puisque juste après, le verset dit « J'envoyais alors des messagers de paix ». Quand on relit ce passage, on est sidéré. Dieu dit « Vas-y, attaque !» Et qu'est-ce que fait Moïse ? Il envoie des messagers de paix pour tenter d'empêcher la bataille. Et on aurait pu dire « Moïse a désobéi », comme on le voit pour Shaul. Et la leçon est exactement inverse. C'est Dieu qui dit « Tu m'as donné une leçon ». Voilà ce que j'attends des hommes. Voilà ce que j'attends des hommes, c'est qu'ils aient cet éveil et cette conscience. Donc, on aurait pu attendre ça de la part de Saül concernant Samuel. Mais il faut avouer, et c'est très gênant, mais il faut avoir l'honnêteté de le dire, qu'il n'y a pas eu dans la tradition rabbinique de considération explicite disant que Saül aurait dû agir ainsi. En revanche, et ça c'est tout à fait capital, concernant l'essentialisation de Amalek, nous avons des textes plus tardifs qui bouleversent complètement les choses et qui renvoient cette notion d'Amalek à un souvenir abstrait dont on doit simplement tirer le principe de vigilance. Et que dit cette tradition ? Elle dit deux choses capitales. La première, c'est que d'abord, les peuples de l'Antiquité, du Moyen-Orient antique, se sont mélangés. Et s'ils se sont mélangés, on ne peut plus déjà, de facto, pouvoir identifier tel individu à tel peuple, et dès lors, toutes les règles qui valaient pour telle ou telle entité ne sont plus valides. Mais ce qui est beaucoup plus fort, c'est que un texte dit que des descendants de Aman, le fameux ennemi dans le livre Esther, des descendants d'Aman ont enseigné la Torah à Bnei Brak. C'est-à-dire, on se rend compte du renversement de la situation. Voilà quelqu'un qui porte l'identité d'Amalek, qui non seulement a été épargné, mais qui est devenu un des maîtres du Talmud, un des maîtres à penser qui a éduqué le judaïsme. Donc il y a dans ce texte du traité Gittin la conviction profonde que rien n'est jamais définitif. On n'a pas le droit d'enfermer une identité, fût-elle diabolique, démoniaque, comme elle l'a pu être identifiée dans des sources plus anciennes, puisque toute rédemption personnelle est possible. Non seulement elle est possible, mais elle peut complètement s'inverser. On sait qu'il y a eu des descendants de dirigeants nazis qui se sont convertis au judaïsme et qui aujourd'hui vivent en Israël. C'est un des cas tout à fait émouvant qui, de nouveau, nous rappelle cette injonction que nous n'avons pas le droit d'enfermer des individus dans cette situation. Alors on aurait pu dire bon, c'est un passage isolé, c'est tel ou tel individu, mais on a également dans un texte de Rabbi Yosef Karo, le fameux auteur de Shulchan Aruch au XVIe siècle, donc une toute grande figure du judaïsme, dans un débat qu'il a avec Rabbi Avraham Ben David de Poskier sur comment comprendre Maïmonide sur ces questions, il dit clairement que tout individu d'Amalek qui accepte ce qu'on appelle les sept commandements de Noé, c'est-à-dire, on va dire, la morale universelle, qui décide de s'astreindre à cette règle, sort de facto de cette civilisation haineuse et de destruction et ne peut plus en aucune façon être considéré comme Amalek. Ces textes que je viens de vous citer montrent clairement, s'inscrivent en faux contre cette idée qu'on a pu relever dans des textes plus anciens, qui tendait à radicaliser, essentialiser et enfermer les identités dans une espèce de fatalité.
Mais parfois, peut-être, une lecture plus littérale devient plus innovatrice, parce que si on regarde le verset du point de départ qui concerne ce commandement, il est dit « efface le souvenir d'Amalek » et souviens-toi, il n'est pas dit de tuer qui que ce soit, c'était le souvenir d'Amalek. Et je pense que nous avons une responsabilité en tant que homme de lecture, en tant que rabbin, de bien expliquer que ces textes-là n'ont plus la possibilité, depuis des siècles déjà, d'être interprétés de cette manière-là. Que la légitime défense soit audible, ça on le comprend très bien et vous l'avez très bien expliqué, mais qu'il y ait une loi dans le judaïsme qui invite au meurtre pour des raisons X, Y, et en particulier, je dirais presque d'une mythologie de l'histoire, c'est quelque chose qui est impossible et j'aime à fameux souvenir que dans la Genèse, l'homme n'est créé qu'à partir du moment où le mot « non », la négation, « lo » en hébreu, apparaît dans le texte biblique, un mot qui est l'anagramme de « el », qui signifie « Dieu ». Je pense qu'il faut savoir se révolter. Moi, je pense qu'il y a une obligation de se révolter. Et je me rappelais de cette phrase d'Albert Camus qui demande « Qu'est-ce qu'un homme révolté ?» C'est un homme qui dit non. Et il ajoute « Mais s'il refuse, il ne renonce pas. » C'est donc aussi un homme qui dit oui dès son premier mouvement. Et pour revenir au début de notre émission, j'ai l'impression que la nuit d'étude qui précède la réception de la loi, c'est une question que je vous pose, Rabbin Crigier, n'est-elle pas une nuit où l'on apprend à dire non pour que la profération de notre « oui » soit toujours un chemin pour la vie, pour tous les hommes sans exception.
Alors, qu'il faut apprendre à dire non, je vous réponds « oui ». Et je vous dis que, précisément, la force d'une nuit d'études comme celle que nous allons mener à Shavuot, c'est que nous ne prenons pas le texte au premier degré. Nous sommes dans l'interprétation, et on voit très très clairement dans les textes qui ont été cités aujourd'hui, comment on s'est refusé à tenir pour injonction absolue la parole première. C'est l'interprétation, la réflexion dans les contextes modernes, et puis aussi l'évolution des mentalités et des mœurs qui doit nous conduire à prendre de la hauteur. Non pas à renier les textes premiers, comprendre qu'ils ont pu faire sens dans une lointaine antiquité, mais notre devoir, c'est de les extirper de leur contexte pour leur donner leur signification présente.
Merci Rabbin Crigier pour cette riche, urgente et importante conversation. Je renvoie les auditeurs à votre excellent essai « L'homme face à la révélation » qui accompagne le livre de Louis Jacobs qui s'appelle « La religion sans déraison » paru chez Albin Michel en 2011. Pour cette émission, j'ai aussi consulté un livre important, « Les versets douloureux, Bible, Évangile, Coran, entre conflit et dialogue » de David Meyer, Yves Somoins et Soeb Bencher aux éditions Lessus en 2007. Rabbin Crigier, merci encore.
Merci.
C'était Talmudique, une émission de Marc-Alain Waknin, préparée avec Françoise-Anne Ménager. Aujourd'hui, à la prise de son, Pascal Bénard et nos deux stagiaires, Marie-Lou et Pierre Paolo, à la réalisation, Ghislaine David. Kol Touv, Leitraot, au revoir, bon dimanche à tous, bonne nuit d'études et à la semaine prochaine.